non pas de l'oraison de Saint-Pierre. Quand on entend par l'oraison de Saint-Pierre, c'est l'oraison de Saint-Pierre au jardin des Oliviers, lorsqu'il dormait, au lieu de prier, selon ce que notre Seigneur lui avait dit, ainsi qu'aux deux autres apôtres, veillez, priez, pour ne pas entrer en tentation. Donc l'oraison, c'est-à-dire que je voudrais vous parler un petit peu de la prière qu'on appellera aussi mentale, ou encore de la méditation, ou encore de la contemplation. Tous ces mots sont un peu synonymes, enfin au moins ils recouvrent un peu la même notion, pas exactement, mais un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, on pourrait dire ça comme ça, dans toute prière, si elle est vraie, elle doit être mentale. C'est-à-dire que la prière, il faut que notre esprit et notre cœur soient à l'unisson de nos paroles. Lorsqu'on dit le chapelet, par exemple, eh bien, on essaie de faire en sorte que notre esprit soit appliqué, soit au « Je vous salue Marie » que l'on récite, soit au mystère que l'on médite, soit au moins qu'on pense un petit peu à la Sainte Vierge, puisqu'on le dit pour l'honorer. Donc notre esprit est appliqué et notre cœur est tourné vers le bon Dieu, vers la Sainte Vierge ou vers les saints. Donc ça c'est vrai de toute prière vocale. De même, lorsqu'on dit une prière à Saint-Joseph ou une litanie du précieux sang, on essaie de faire en sorte que notre esprit soit fixé sur le thème, sur les paroles que l'on prononce. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que notre nature humaine est ainsi faite que on a souvent beaucoup de mal, même dans les prières vocales, à ce que notre esprit soit en union avec les paroles que l'on prononce. Dans un chapelet, sur 50 « Je vous salue Marie », il y en a peut-être, ça dépend des personnes, hein, ça dépend des jours, ça dépend des heures, il peut y avoir 5 « Je vous salue Marie » ou 15 ou 20 ou 25 ou 35 auxquels on pense, et puis les autres, eh bien notre esprit est ailleurs. Alors si nous voulons de faire en sorte que notre esprit soit davantage appliqué aux paroles que l'on prononce, il peut être bon, et il est même très profitable pour l'âme, d'apprendre à faire oraison, et donc c'est le sujet dont je parle maintenant, c'est-à-dire apprendre à se mettre en présence de Dieu et pour essayer de vivre un petit peu plus dans cette présence. Parce que finalement, c'est là le but de ce dont je veux vous parler cet après-midi. En vous parlant de l'oraison mentale, mon but, c'est d'essayer de faire en sorte que les prières que vous récitez du matin au soir, le dimanche, à la messe, que ces prières soient un petit peu plus profondes, faire en sorte que votre esprit soit un petit peu plus appliqué au sujet de votre prière, et que votre cœur soit davantage appliqué à cela. Alors sachez qu'il y aura toujours des jours ou des heures où ce sera très difficile. C'est vrai de tout le monde, c'est vrai des prêtres, c'est vrai des religieux et des religieuses. Quand vous êtes en train de prier à la chapelle, peut-être que vous vous dites « Ah, qu'est-ce qu'elles ont de la chance !» C'est là, au moins, elle a l'impression d'être au troisième ciel. Mais en fait, si vous rentriez au plus profond de son âme, vous verriez que peut-être que ce n'est pas exactement ce qui se passe. Bon, peut-être pas non plus, enfin, peut-être qu'elle a cette grâce extraordinaire de ne jamais distraite, mais ça m'étonnerait. On raconte dans la vie de Saint-François de Sales que Saint-François de Sales parlait un jour à ses fidèles de la prière et il disait que souvent on est distrait dans nos prières. Alors il y avait un monsieur qui disait « Ah non, moi je ne suis pas distrait dans mes prières. » Donc il a de la chance au moins celui-là. Alors Saint-François de Sales lui dit « Eh bien en tout cas, si vous n'êtes jamais distrait dans vos prières, vous allez dire un Notre Père. Et si vous êtes capable de dire le Notre Père sans distraction, je vous offre mon cheval. » Donc, c'était alléchant comme proposition. Alors le bonhomme, il commence à dire son Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Et la selle avec. Dommage. Donc malheureusement, la nature humaine est ainsi faite que très souvent notre esprit par ailleurs. Alors si nous voulons avoir, donc je vous disais, une vie intérieure plus profonde, il est bon d'apprendre à savoir ce que c'est que l'oraison, et après à chacun de voir en fonction de ce qu'il fait déjà dans la vie de tous les jours, de quelle manière il pourrait consacrer quelques minutes de prière silencieuse pour que les autres prières soient aussi plus agréables à Dieu. Alors tout d'abord, première remarque, il faut savoir que c'est un peu délicat de parler de ce sujet de l'oraison parce que les âmes sont très différentes les unes des autres. Donc on peut vous donner les grandes lignes si vous voulez, parce que ça c'est valable un peu pour tout le monde. Mais ensuite, dans les détails, ça dépendra beaucoup des personnes. Par exemple, vous avez des tempéraments qui sont plus spéculatifs et des tempéraments qui sont plus imaginatifs. Alors, si vous avez un tempérament un petit peu spéculatif et qu'on vous parle des détails de la crèche ou de chacune des blessures du côté de notre Seigneur, enfin des cinq blessures de notre Seigneur, ben peut-être que ça ne vous touchera pas particulièrement parce que vous avez du mal à imaginer justement ce qu'ont pu être ces souffrances. Et à l'inverse, si vous avez un tempérament imaginatif et qu'on reste vous parler pendant une heure de l'immutabilité du Christ ou des relations des trois personnes divines, ça vous paraîtra très sec. Vous direz, bon, moi, c'est pas tellement mon truc, enfin, c'est pas tellement ma manière, disons, d'approcher Dieu. Donc, en fonction du tempérament, eh bien, il faut essayer de savoir ce qui nous convient pour voir de quelle manière on pourra approcher le mystère de Dieu. Et donc je vous donnerai quelques consignes, quelques conseils pour l'oraison, mais sachez que ce ne sont que des grandes lignes et qu'il est très important de voir ce qui vous convient le mieux. Même pour certaines âmes, il peut y avoir, à un moment donné dans la vie spirituelle, une méthode qui est bonne, et ensuite quand on évolue dans sa vie, eh bien le bon Dieu nous parle d'une façon un peu différente, et donc c'est à nous de nous adapter. Donc je vous cite ici par exemple Sainte Thérèse d'Avila qui dit « Il est très important que toute âme qui s'adonne à l'oraison peu ou prou ne soit ni traquée ni opprimée. Laissez-la évoluer dans ses demeures, de haut en bas et sur les côtés, puisque Dieu l'a douée d'une si grande dignité, qu'elle ne se contraigne point à rester longtemps seule dans une salle. » Donc il faut savoir diversifier sa méthode d'union à Dieu en fonction des circonstances. De même, un autre auteur, Louis de Grenade, disait à son tour, plusieurs s'imaginent qu'il en est de l'oraison comme d'un art quelconque, dont il suffit d'apprendre les procédés et les règles pour s'y rendre parfait. Ils oublient que loin de dépendre en rien de notre habileté, la grâce, au contraire, est un pur effet de la miséricorde infinie de Dieu. Leur illusion vient de la doctrine qu'ils rencontrent dans certains livres modernes, où, après avoir établi des règles, les auteurs laissent croire que ces règles bien observées peuvent suppléer à la grâce. À les entendre, il n'est qu'à suivre la méthode des alchimistes, dont la formule est celle-ci. Prenez telle ou telle matière, soumettez-la à telle ou telle préparation, et vous aurez de l'or pur. Cette opinion n'a rien de commun avec l'enseignement des saints docteurs. Elle est même injurieuse à la grâce, qui étant l'œuvre de Dieu et un pur effet de sa miséricorde, ne saurait en aucune manière être subordonnée à notre industrie. Ce qui nous dispose à la grâce, ça c'est important, ce qui nous dispose à la grâce, c'est une véritable et sincère humilité. Donc d'abord, si je veux être une âme d'oraison, je dois travailler la vertu d'humilité. Ça c'est sûr, c'est le fondement de toute vie spirituelle. Dieu donne sa grâce aux âmes. Le but de l'oraison, c'est d'obtenir la grâce de Dieu. Et cette grâce, le bon Dieu la donne aux âmes. Donc ce qui nous dispose à la grâce, c'est une véritable et sincère humilité. Ensuite, c'est une connaissance approfondie de notre misère et une grande confiance en Dieu. Donc ce qui donne la place au bon Dieu, eh bien, c'est d'abord la reconnaissance de notre misère. Pourquoi cela ? Il faut se vider de nous-mêmes pour que le bon Dieu puisse venir en nous. Si nous sommes remplis de nous-mêmes, si on a l'impression que ça va très bien, que tout va bien dans notre vie, eh bien, le bon Dieu, il n'y a plus de place pour vivre. Et donc, il est nécessaire que nous reconnaissions notre misère pour que le bon Dieu puisse venir en nous. Et plus on aura cette connaissance et cette reconnaissance de notre misère, plus le bon Dieu, plus on fera de la place à Dieu. Par contre, il ne faut jamais détacher notre misère de la miséricorde de Dieu. Si on voit notre misère en nous, eh bien, on tombe dans le découragement. Il faut voir notre misère à la lumière de Dieu. Et si on la voit à la lumière de Dieu, eh bien on imite en quelque sorte Saint Pierre qui a croisé, comme on a vu, le regard de notre Seigneur. Et en croisant ce regard, eh bien il a gardé confiance. Donc, limite d'une méthode pour l'oraison. Maintenant, importance malgré tout d'une méthode. Saint Louis de Grenade dit, cependant, on aurait tort de conclure qu'il n'y a aucune méthode à suivre. Car bien que celui qui plante et qui arrose diffère de celui qui donne l'accroissement, celui qui donne l'accroissement, c'est-à-dire Dieu, veut avant toute chose que l'on commence par planter et par arroser. Donc nous, notre rôle, c'est de planter et arroser, qu'après le bon Dieu, c'est lui qui donne les fruits. Donc dans la vie spirituelle, il y a toujours deux écueils à éviter, et malheureusement, on peut tomber à certains moments dans un écueil, après un autre moment dans un autre. Les deux écueils qu'il faut éviter, d'un côté, il y a le volontarisme, donc c'est à coup de volonté, donc on serre les dents pour y arriver, si vous voulez, mais ce n'est pas forcément la meilleure méthode, parce que c'est une erreur, c'est d'ailleurs un écueil. Donc ce volontarisme qui fait que l'on veut, certes, mais on s'appuie trop sur nous, et pas assez sur Dieu. Donc c'est petit à petit qu'on se change. La sainteté est une longue patience. Donc écueil du volontarisme de celui qui veut y arriver trop par lui-même. Et puis l'autre écueil, ce sera l'écueil du quiétisme. Donc le quiétisme, donc quies, ça veut dire repos en latin. Donc du quiétisme qui fait qu'on se repose entièrement sur Dieu et on dit oui, ça j'ai compris, c'est le bon Dieu qui me change, qui me transforme, alors je le laisse faire, moi ça va bien. Et donc là, on oublie la part de l'homme. Donc on attend que le bon Dieu nous transforme, mais sans coopérer à l'action de la grâce. Et ça ne va pas non plus. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a un passage dans lequel Dieu parle à l'église de Laodicée. Enfin, c'est notre Seigneur qui parle. Et qui dit, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Donc Dieu se tient à la porte de notre âme. Et il frappe. Donc le fait que le bon Dieu frappe à la porte, c'est la grâce excitante de Dieu. De temps en temps, le bon Dieu, eh bien, il nous donne des inspirations. Au cours d'une journée, on se dit, tiens, il faudrait peut-être que j'aille voir telle personne. Tiens, il faudrait peut-être qu'aujourd'hui, je me prive de goûter. J'ai l'impression que je passe trop de temps au téléphone. Bon, on a des inspirations qui nous viennent, et qui nous viennent du bon Dieu. Eh bien, c'est à nous d'apprendre à être réceptifs à cette voix de Dieu. Et si on est toujours à la surface de nous-mêmes, et qu'on fait uniquement toujours nos quatre volontés, eh bien... On restera une âme superficielle. Si on veut devenir une âme profonde, il faut apprendre à discerner ces touches de la grâce au cours de nos journées. Et si on veut arriver à cela, eh bien, il faut apprendre à vivre un petit peu de temps en temps dans le silence. Et c'est justement le rôle de l'oraison. Alors, maintenant, une définition de l'oraison. Définition que je peux donner, celle de Saint François de Sales. L'oraison, dit saint François de Sales, n'est autre chose qu'une conversation par laquelle l'âme s'entretient amoureusement avec Dieu. De sa très aimable bonté pour s'unir et se joindre à elle. Donc, conversation... Une conversation où l'âme s'entretient avec Dieu. Ça veut dire que donc, il y a des moments dans l'oraison où on parle et des moments où on se tait. Des moments où on parle et des moments où on écoute. Donc il y a un échange. Ensuite, un mot important, c'est qu'il s'entretient amoureusement. C'est la place du cœur dans la prière qu'est l'oraison. C'est très important de prier avec sa tête, mais aussi de prier avec son cœur. C'est Dieu veut notre cœur. Et donc, spécialement dans l'oraison, si on a compris que le bon Dieu est proche de nous, s'il a compris qu'on est vraiment enfant de Dieu, eh bien, on doit apprendre à lui parler d'une façon simple, avec nos mots à nous, mais d'une façon profonde et avec vraiment tout notre cœur. Et c'est l'intérêt, vous voyez, de l'application de l'esprit qui précède cette affection du cœur. Je médite sur la passion. Je peux très bien dire, par exemple, quand je fais pas oraison, bon, quatrième mystère douloureux, le portement de la croix, fruit de ce mystère, l'acceptation de nos peines. Bon. Et c'est très bien. Et donc, c'est reparti pour un tour, notre Père qui est aux cieux. Mais l'oraison, par exemple, si un matin, vous allez méditer sur le portement de croix, eh bien, vous essaierez, pendant quelques minutes, de penser aux circonstances du portement de croix, de penser à toutes les souffrances que notre Seigneur a déjà endurées. Il a enduré son agonie, il a été flagellé, il a été couronné d'épines. Il est en train de porter l'instrument de son supplice et il sait que le bout de ce chemin de croix, eh bien, c'est qu'il va être crucifié. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous essayez de réaliser un peu ce qui s'est passé. Vous essayez de vous mettre dans la peau des personnes qui ont vécu ce mystère, qui ont vécu près de notre Seigneur. Et puis, à partir de ce moment-là, eh bien, nécessairement, normalement, spontanément, sauf si vous avez un cœur de pierre, mais nécessairement, il y a des affections qui vont sortir de votre cœur. Seigneur, vous avez porté votre croix avec tant d'amour pour moi, et moi qui, au cours de ma vie, je me plains pour si peu, aidez-moi aujourd'hui à mieux porter ma croix, à vous suivre. Donc après, ce sera vous qui le direz avec vos mots à vous. Donc c'est pas moi de vous dicter vos mots. Le matin, les prêtres disent, vous êtes, si vous voulez, pour l'oraison. Donc ils font une oraison à voix haute, bon, qui est un peu générale, à des considérations un peu générales, pour vous montrer différentes manières de faire oraison. Maintenant, les prêtres, eux-mêmes, quand ils font oraison personnellement, ils le font peut-être d'une manière un peu différente. Hein. Mais c'est simplement pour vous donner un peu une idée de ce que c'est que l'oraison. Mais le principe d'une oraison, c'est que on ne prend pas un livre pour lire uniquement des prières qu'un autre a prononcées, même si cet autre est un saint, mais on parle avec nos mots à nous, en rapport avec ce que l'on vient de voir, avec ce qu'on vient de considérer. Donc c'est un échange, c'est-à-dire aussi qu'il ne faut pas forcément tenir le crachoir tout le temps, quoi, vous voyez. Il y a des moments, dans la prière, dans l'oraison spécialement, il faut apprendre à se taire. Et on est là, près du bon Dieu. Alors c'est sûr que même celles d'entre vous qui ont l'habitude de faire oraison, certainement que le matin, quand nous on fait oraison à voix haute pour vous aider, ça aide certaines qui n'ont jamais fait oraison, mais ça peut déranger les autres. Mais bon, quand il a fini de se taire, bon, il est gentil de nous raconter sa vie, enfin, ou de dire ce qu'il a à dire au bon Dieu, mais moi, laissez-moi, enfin, tranquille, moi j'ai envie de parler à bon Dieu avec mes mots à moi. Mais bon, enfin, c'est comme ça. Donc, il faut savoir parler et il faut aussi savoir se taire. Donc, et surtout au départ, il faut se taire, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en présence de Dieu. C'est la première partie, on en parlera après, la première partie de l'oraison. Et donc, il faut réaliser que le bon Dieu est là, il est là proche de nous, il est dans notre âme, ou il est là dans le Saint-Sacrement. Et s'il est là, c'est comme une personne vivante, et avec le désir de se donner à nous. Alors, l'objet de la prière, dit saint François de Sales, l'âme s'entretient amoureusement avec Dieu de sa très aimable bonté. Donc, on ne parle pas d'abord avant tout de nous, uniquement de nous. Bon, même si parfois on peut le faire. Hein. Si on a une croix qui est lourde, et bien justement, on peut dire Seigneur, venez à mon aide, j'y arrive plus, c'est trop difficile, je me marre. Bon. Aidez-moi. Mais ça, on peut le dire aussi. Mais normalement, avant tout, la prière, c'est d'apprendre à s'approcher de Dieu. Et c'est sûr que chaque fois qu'on s'approche de Dieu, qu'on s'approche de notre Seigneur, et même dans son humanité, ça nous donne ensuite des forces pour mieux accomplir notre devoir. Et le but après, vous voyez, c'est pour s'unir et se joindre à elle. Le but, c'est d'arriver à une union plus intime avec Dieu. Un autre auteur aussi qui peut nous aider à savoir ce que c'est que l'oraison. J'ai pris saint François de Sales parce que saint François de Sales est un auteur qui il a été directeur spirituel d'un nombre incalculable d'âmes, et spécialement de femmes. Donc il connaît très bien la nature féminine et donc il s'adapte très très bien. Bon, il y en a qui, c'est dommage, qui sont bloqués par le style de saint François de Sales. Bon, c'est, parce que c'est le vieux français, ça peut paraître un peu désuet, mais si on dépasse la forme, le fond est vraiment très très bon. Et l'autre auteur qui peut aussi nous servir de guide, c'est sainte Thérèse d'Avila, parce que elle aussi était vraiment une femme forte qui a formé une étape religieuse, donc une étape religieuse. Si vous voulez avoir une vie intérieure, les conseils qu'elle donnait restent tout à fait adaptés. Bien, elle disait, l'oraison est un entretien d'amitié où l'âme parle cœur à cœur avec celui dont elle se sait aimer. L'oraison est un entretien d'amitié où l'âme parle cœur à cœur avec celui dont elle se sait aimer. Donc, vous voyez, elle dit qu'il parle cœur à cœur. Alors, le fameux cœur à cœur, vous verrez qu'il y aura certains jours où ça devrait être plus facile que d'autres. Il y aura des jours où vous serez vraiment sèche. Ça vous dira, vous avez beau prendre n'importe quel livre, n'importe quel passage de l'Évangile, ça ne vous dira rien. Alors à ce moment-là, il faudra que ce côté sensible, s'il n'est pas présent, d'y suppléer par des actes de foi, d'espérance et de charité. Seigneur, je crois, Seigneur, j'espère, Seigneur, je vous aime, je veux vous aimer. Donc il faudra manifester votre fidélité par des actes de foi, d'espérance et de charité. Mais à d'autres moments, ou j'espère en tout cas, que vous arriverez à bien réaliser que notre Seigneur est plus près de vous, et bien ce cœur à cœur sera plus facile. Alors avec celui, donc cœur à cœur, avec celui, donc celui c'est notre Seigneur bien sûr, dont elle se sait aimer. L'amour appelle l'amour. Plus nous serons convaincus que le bon Dieu nous aime, plus nous l'aimerons. Alors en ce moment-là, toujours, c'est la question qui vient, mais comment savoir si Dieu m'aime vraiment? Bien, regardons ce qu'il a fait pour nous. Notre Seigneur s'est incarné pour nous. Il s'est incarné pour tous les hommes, mais il s'est incarné pour moi aussi. Il ne faudrait pas croire, vous voyez, que ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'humanité, comme si l'humanité était une notion abstraite. Notre Seigneur aime chaque âme particulièrement, individuellement. De la manière qu'il a pleuré sur la ville de Jérusalem, donc sur les habitants de Jérusalem, il a pleuré aussi rien que sur Saint-Pierre. Donc il pleure sur chaque âme qui s'écarte du droit chemin. Et il a le désir de voir chaque âme s'approcher de lui. Donc il a un amour personnel. Notre Seigneur vous aime personnellement. Saint Paul le disait. Saint Paul disait, le Christ Jésus m'a aimé et s'est livré pour moi. Il m'a aimé. Il ne dit pas il a aimé les hommes, il s'est livré pour eux. Il dit il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Et donc c'est ça, c'est l'intérêt de l'oraison. Dans l'oraison, on personnalise ce que notre Seigneur a fait pour tout le monde, on personnalise en voyant ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Donc, notre Seigneur, non seulement il s'est incarné pour moi, non seulement il a pris nature humaine pour moi, mais il est mort pour moi. Et il est aussi même ressuscité pour moi. Et s'il est dans l'Eucharistie, c'est aussi pour moi, parce qu'il veut s'unir à moi. C'est ce qu'on chante d'ailleurs dans le credo. Dans le credo, on dit « Propter nos homines, propter nostram salutem, descendi de celis. » Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Et ensuite, autre notion très importante, dans la définition donnée par Sainte Thérèse d'Avila, elle dit que c'est un cœur à cœur avec Dieu, la prière qu'est l'oraison, un entretien d'amitié où l'âme parle cœur à cœur avec Dieu, donc avec celui dont elle se sait aimer. Donc vous voyez, elle ne dit pas dont elle se sent aimer, mais dont elle se sait aimer. Et ça, c'est un problème pour plusieurs personnes qui commencent à faire oraison. C'est qu'en général, le bon Dieu, il nous connaît, donc il sait nous prendre en tenant compte de notre nature. Donc très souvent, au début d'une vie spirituelle, le bon Dieu se fait connaître à nous d'une façon plus sensible, parce qu'il sait que c'est de cette manière qu'il pourra nous toucher. Mais ensuite, au fur et à mesure, si nous sommes généreux, eh bien, il va enlever petit à petit le sucre, pour voir si nous sommes attachés uniquement au sucre qu'il nous donne ou à lui-même. Si quand il nous enlève le sucre, on se met à bouder le bon Dieu, c'est le signe que c'est le sucre auquel on est attaché, et non pas à Dieu lui-même. Et Dieu veut qu'on soit attaché à lui, et non pas à ses consolations. Bon, qu'on apprécie les consolations de Dieu, c'est normal. Mais on ne doit pas, avant tout, chercher les consolations de Dieu. Et comme dit saint François de Sales, on doit avant tout, dans la prière, chercher le Dieu des consolations. Et c'est ça un peu souvent notre problème. C'est que on aime un peu trop le sucre, on aime bien être cajolé, on aime bien être consolé, on aime bien être rassuré. Et donc on va trop, parfois dans la prière, on vient chercher un réconfort, un soutien, ce qui ce qui est vrai aussi, c'est un aspect, mais il ne faut pas que ce soit le seul aspect. Normalement, dans la prière, on va dans la prière pour se donner, voyez, pour se donner au bon Dieu, et pas avant tout pour recevoir. Si on se donne, on recevra aussi en échange. Il en est finalement du commerce d'amitié avec Dieu, comme d'ailleurs avec nos autres amis, ou même avec le conjoint. On dit que pour faire un bonheur, un mariage heureux, on ne doit pas avant tout se dire, quand on désire se marier, qu'est-ce que l'autre va m'apporter, mais qu'est-ce que moi, je pourrais lui apporter. Et il faut, en espérant que l'autre, bien sûr, pense la même chose. Et donc, si les deux agissent dans ce sens, si on cherche avant tout le bonheur de l'autre, et si les deux cherchent le bonheur de l'autre, eh bien, à ce moment-là, on est sûr que le mariage pourrait être... Enfin, on est au moins dans la bonne ligne d'un mariage heureux. Si, au contraire, on attend trop de l'autre, eh bien, c'est chacun qui tient la couverture à soi. Alors, un mariage comme ça, c'est pas terrible, vous voyez. Parce que si on est... C'est donnant-donnant... Ou alors c'est encore une autre expression, on disait que pour faire un mariage heureux, il ne s'agissait pas tant de couper la poire en deux que de manger la poire à deux. Si vous coupez la poire en deux, c'est encore donnant-donnant. T'as fait ci, alors maintenant tu es allé chez ta mère, alors maintenant moi j'ai envie d'aller chez ma mère. Bon, si c'est toujours comme ça le mariage, c'est pas très drôle, vous voyez. Donc ça c'est couper la poire en deux. Mais manger la poire à deux, si vous êtes à deux en train de manger la même poire, il faut quand même essayer de tenir compte un peu de l'autre, parce que sinon ça risque d'être un peu difficile. Alors, quels sont les moyens maintenant pour arriver à ce cœur à cœur avec Dieu? Eh bien, tout d'abord, s'il est vrai qu'on doit avant tout aller à l'oraison, à la prière, avec l'intention de se donner à Dieu plus que dans le but de recevoir des consolations, ça exige de notre côté un certain renoncement. Dans toute vie spirituelle, il y a deux aspects dans la vie spirituelle. Il y a un aspect ascétique et un aspect mystique. Un aspect ascétique, l'ascèse, c'est le renoncement, c'est la partie négative. Et l'aspect mystique, c'est l'aspect d'union. Nous, on voudrait bien qu'il y ait une union sans renoncement. Mais tant qu'on est sur la terre, eh bien, il faudra se renoncer pour devenir charité. Le but de la vie terrestre, c'est de devenir charité. Dieu est charité, nous devons devenir charité. Et pour devenir charité, il faut qu'on apprenne à vaincre notre égoïsme. L'égoïsme et la charité ne peuvent pas, ça ne va pas ensemble. Parce que l'égoïste, c'est quelqu'un qui ramène tout à lui, et celui qui est charitable, c'est quelqu'un qui se donne à l'être aimé. Donc il y a une abnégation qui est nécessaire. Et parce que le bon Dieu veut justement tout notre cœur, eh bien l'abnégation, elle est profonde. Dieu exige une abnégation profonde. Qu'on soit attaché, qu'un oiseau soit attaché au sol avec un câble ou avec un fil, il ne peut pas s'envoler. Pour que l'oiseau s'envole, il faut qu'il soit détaché de tout. Eh bien, nous, c'est un petit peu pareil. Si on veut être vraiment uni pleinement à Dieu, il faut qu'on se détache. Alors, souvent, parce qu'on est trop attaché à certaines créatures ou trop attaché à nous-mêmes, eh bien, le bon Dieu permet que dans notre vie, il y ait justement certaines épreuves. Et les épreuves sont là pour nous détacher petit à petit. Ces paroles sont de notre Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Il y a même une autre parole qui est très forte, ça c'était Saint Luc chapitre 9 verset 23, où notre Seigneur dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et même sa propre personne, il ne peut être mon disciple. » Alors bien sûr ici que le terme de haïr ne veut pas dire qu'on va détester ses parents, c'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire que si on a un choix à faire un jour entre nos parents et Dieu, on doit choisir Dieu. Si nos parents nous poussaient à nous détacher de Dieu, on devrait choisir de suivre la loi de Dieu. Alors, quels sont les degrés de détachement qui vont nous permettre de mieux nous attacher à Dieu? Eh bien, le Père Liberman trouve 6 degrés de renoncement. D'abord, il parle du détachement du péché. On ne doit pas être attaché au péché. Qu'on pêche, hélas, le juste même pêche tous les jours. Mais autre chose est le péché dans lequel on retombe tous les jours par faiblesse. Autre chose est le péché auquel on est attaché. Donc celui qui a un péché mignon, eh bien, pour le bon Dieu, il n'y a pas de péché mignon. Si je suis trop attaché à une créature, même si c'est une créature qui est si j'ai, par exemple, c'est la gourmandise, des choses même qui ne sont pas trop graves en elles-mêmes, mais ça m'empêche, malgré tout, d'être totalement uni au bon Dieu. Donc je dois être détaché du péché. Donc c'est le premier degré. Je ne peux pas, et ça se comprend, je pense que vous comprenez bien, on ne peut pas être attaché à Dieu et être attaché au péché, c'est pas possible. Dieu et le péché, c'est le péché, on voit que notre Seigneur a horreur du péché. Le péché en lui-même est en opposition radicale avec Dieu. Si on veut comprendre l'opposition qui est entre Dieu et le péché, il faut regarder notre Seigneur sur sa croix. Notre Seigneur sur sa croix, eh bien, quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Eh bien, Dieu le Père, il semble qu'il ait comme abandonné son Fils, parce que son Fils sur la croix a porté sur lui le poids de nos péchés. Et Dieu et le péché ne peuvent pas cohabiter. Donc il faut se détacher du péché pour s'attacher à Dieu. Ensuite, un deuxième degré de détachement, le détachement des plaisirs grossiers qu'on ne doit pas apprécier, même un bon repas. C'est vrai qu'il y a celui qui apprécie la bonne nourriture, bon, comme il peut apprécier aussi la bonne musique, en soi, c'est pas mauvais. Mais on dit le détachement. Donc on entend par détachement le fait bien d'être capable de s'en priver si une occasion se présente. Mais par exemple, même le fait qu'à l'occasion des grandes fêtes, que le corps participe à la joie de l'âme, c'est pas du tout en opposition, vous voyez, avec l'esprit catholique. Maintenant, si on mange jusqu'à s'en rendre malade, ben, vous voyez bien qu'il y a un désordre, c'est une évidence. Donc le détachement des plaisirs grossiers des sens. Ensuite, après, il dit le détachement des plaisirs et amusements spirituels naturels, comme sont les amitiés naturelles, l'attachement à la science, la complaisance en nos œuvres. Donc il faut aussi se détacher de nos amitiés naturelles, c'est-à-dire qu'il y a une amitié en soi, c'est une bonne chose, bien sûr. La science en soi, c'est une bonne chose. Nos œuvres, lorsqu'elles sont bonnes, c'est une bonne chose. Mais il faut apprendre à en être détaché, c'est-à-dire que bah, si le bon Dieu un jour nous en demande le sacrifice, eh bien qu'on ne soit pas complètement accablé, vous voyez. Ou qu'on ne renonce pas à Dieu pour conserver une amitié, ou pour conserver la science, ou pour conserver une œuvre. Donc il faut apprendre à être détaché. Ensuite, il parle le détachement des joies et sensibilités intérieures, c'est-à-dire des consolations sensibles qu'on éprouve dans la prière. Donc être détaché des consolations qu'on éprouve dans la prière. Alors comment je peux prouver que je suis détaché de ces consolations? Eh bien c'est le fait que j'ai des consolations ou que j'ai pas de consolations, si j'ai décidé de faire un quart d'heure ou 20 minutes de méditation par jour, je reste à mes méditations, même si je n'ai pas une once de consolation. Si je reste fidèle au bon Dieu en l'absence des consolations, c'est le signe que je suis bien détaché de ces consolations. Donc il faut apprendre à se détacher aussi de cela. Donc encore une fois, les consolations spirituelles, c'est une bonne chose. Donc le fait d'apprécier ces consolations, c'est une bonne chose, c'est même le bon Dieu qui nous les donne, même les consolations sensibles. Donc les apprécier, c'est une bonne chose, mais il faut apprendre à s'en détacher, c'est-à-dire à être capable de faire une croix dessus si le bon Dieu nous le demande. Ensuite, cinquième degré de détachement pour le père Liederman, le détachement des lumières intérieures. Donc dans la prière, le bon Dieu nous donne des lumières, on a mieux compris l'amour de Dieu pour nous, on a mieux compris nos propres faiblesses, on a mieux compris l'importance de la Sainte Eucharistie ou l'importance de la prière. Donc on est content d'avoir reçu une lumière. Ou alors ce passage d'évangile bon, qui nous paraissait très obscur, on a mieux compris ce passage. En soi c'est une bonne chose, mais il faut aussi apprendre à en être détaché. C'est-à-dire que si le bon Dieu nous éprouvait aussi même dans ce domaine-là, et eh bien qu'on n'abandonne pas la religion pour autant. Et puis enfin, dernier degré d'étachement pour le père Liederman, le détachement de l'activité naturelle qui vient du désir inquiet d'avancer vers telle vertu. Donc on met tout en œuvre pour essayer d'avancer dans telle vertu, parce qu'on sait qu'on a besoin de cette vertu, mais notre désir d'avancer dans la vertu est un désir inquiet. Donc on imite encore un peu trop Marc, pourquoi te troubles-tu? Donc le détachement de l'activité naturelle qui vient du désir inquiet d'avancer vers telle vertu. Qu'on désire acquérir une vertu qu'on n'a pas, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi apprendre que la sainteté est une longue patience, donc c'est petit à petit, il faut accepter de ramer avant d'arriver au but. Donc vous voyez, il faut être patient vis-à-vis des autres, mais il faut être aussi patient vis-à-vis de nous-mêmes. Un autre aspect qui va nous aider à bien faire oraison, c'est certaines personnes confondent oraison et examen de conscience. À savoir que dès qu'elles se retrouvent seules devant Dieu pour prier, c'est tout de suite leur péché qui leur arrive sous les yeux. Alors le fait au début d'une oraison de dire un acte de contrition si certains péchés donc, se présentent, ou même de s'humilier devant le bon Dieu et de lui demander pardon de nos fautes passées, c'est une bonne chose. Mais en soi, l'oraison ne doit pas être un retour constant sur soi pendant un quart d'heure ou 20 minutes. Ce n'est pas le but de l'oraison. Le but de l'oraison, c'est de s'unir à Dieu, et non pas de rester pédaler dans la choucroute ou de ramer dans la boue. Quelques auteurs spirituels, le père Liebermann disait à un séminariste que votre âme ne passe pas son temps à courir après ses fautes. Sainte Catherine de Sienne dit également qu'il ne faut pas penser constamment à ses fautes, mais voir Dieu qui s'approche à chaque instant pour les purifier. En vous disant cela, je ne veux pas dire pour autant qu'il faille négliger l'examen de conscience ce soir. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais chaque chose a son temps. Le père Liebermann encore, les retours qui rendent l'âme paisible sont les retours sur Dieu et non les retours sur soi. Et c'est terrible, ça c'est inhérent à notre psychologie moderne, on est beaucoup trop centré sur nous. Si bien que même dans la prière, eh bien quand on prie, il faut qu'on se regarde prier pour savoir si on prie bien. Et du coup, quand je me regarde prier, je ne prie plus, hein, je suis désolé, c'est comme ça. Il y a ce que disait déjà Saint Antoine, pour bien prier, il ne faut pas savoir que l'on prie. La prière, c'est un acte direct vers Dieu, ce n'est pas un acte réflexe. Donc dès que je reviens sur moi, je ne prie plus. Peut-être que l'année dernière, vous avez pris cette image-là, l'image des rétroviseurs en voiture, c'est que dans une voiture, vous voyez, vous avez un grand pare-brise devant, vous avez des rétroviseurs. Donc heureusement qu'il y a des rétroviseurs, parce que sinon, dans les dépassements, ça pourrait être dangereux, vous voyez. Mais il me semble que normalement, il faut davantage regarder dans le pare-brise devant que dans les rétros, vous voyez. Parce que si vous passez votre temps à regarder dans les rétros, moi, il me semble que vous risquez de vous planter en beauté. Eh bien, les âmes qui sont scrupuleuses ou inquiètes sont des âmes qui sont toujours dans le rétro, en train de regarder dans le rétro. Donc, faut pas s'étonner qu'elles ont du mal à avancer, vous voyez. Donc, regardez devant vous, vous voyez, ne regardez pas devant derrière. Saint François de Sales. Il y a des esprits actifs, fertiles et foisonnants en considération. Il y en a qui sont souples, repliants et qui aiment grandement sentir ce qu'ils font, qui veulent tout voir et éplucher ce qui se passe en eux, retournant perpétuellement leur vue sur eux-mêmes pour reconnaître leur avancement. Il y en a d'autres encore qui ne se contentent pas d'être contents s'ils ne savourent pas leur contentement, et sont semblables à ceux qui sont bien revêtus contre le froid et ne penseraient pas l'être s'ils ne savaient combien de robes ils portent, ou qui, voyant leur coffre-fort plein d'argent, ne penseraient pas être riches s'ils ne connaissaient pas le compte de leurs écus. Or, tous ces esprits sont ordinairement sujets d'être troublés en la sainte oraison. Car si Dieu leur donne le sacré repos de sa présence, ils le quittent volontairement pour voir comment ils se comportent en lui, s'inquiétant pour savoir si leur tranquillité est bien tranquille. Au lieu d'occuper doucement leur volonté à sentir les douceurs de la présence divine, ils emploient leur entendement à discourir sur les sentiments qu'ils ont, comme une épouse qui s'amuserait à regarder la bague avec laquelle elle aurait été épousée sans même voir l'époux qui la lui aurait donnée. Dommage. Conclusion. Il y a une grande différence entre s'occuper en Dieu qui nous donne du contentement et s'amuser au contentement que Dieu nous donne. Donc il faut voir Dieu avant tout dans la prière. Il faut aimer le bon Dieu et non pas avant tout se contenter de savourer le sucre qu'il nous donne. Alors, qu'est-ce qui va nous aider à bien faire oraison? Donc, il y a la partie de renoncement, donc qui est une partie ascétique qui est vraie de la vie de tous les jours. Il faut apprendre à avoir éviter d'avoir des attaches déréglées pour pouvoir mieux s'unir à Dieu. Et ensuite, alors ça c'est la préparation éloignée qu'on pourrait dire à l'oraison, donc une vie chrétienne authentique. Et ensuite, alors, une fois que, si on n'a pas trop d'attaches au moins déréglées, et si on n'en a pas du tout, c'est encore mieux, eh bien, ce qui va nous aider ensuite à faire oraison, ce sera le recueillement. Le recueillement, c'est la première étape dans l'oraison. Qu'est-ce que c'est que ce recueillement? Le recueillement, c'est la récollection de toutes les puissances de notre âme. C'est-à-dire, c'est le fait de rassembler les puissances de notre âme pour les tourner vers Dieu. Donc la récollection, le recueillement, c'est la récollection de toutes les puissances de notre âme. C'est l'état d'une âme qui est présente à Dieu et à elle-même par ses affections et par sa volonté. Et si je vais faire oraison, la première chose qu'il faut, c'est, comme on l'avait dit tout à l'heure, donc c'est l'humilité, parce que le bon Dieu donne sa grâce aux âmes. C'est aussi la confiance. Et puis après, il faut aussi une grande ouverture d'âme. Il faut être très disponible. Parce que quand le bon Dieu nous parle, vous voyez, nécessairement, c'est comme ça, c'est vrai pour tout le monde, le bon Dieu, dans la prière, nous dira certainement des choses agréables. Parce qu'il nous aime, il nous dira qu'il nous aime. Et savoir aimer de Dieu, c'est quelque chose de formidable, de merveilleux. Mais très probablement aussi, à certains moments, eh bien, il nous fera sentir, justement, quelles sont nos affections déréglées. Il nous montrera qu'on est trop, on passe trop de temps au téléphone, on est trop attaché à telle personne, on a trop attaché à telle œuvre, on a tel désordre dans notre vie. Et là, à ce moment-là, c'est à nous de savoir capter ce message de Dieu. Et ensuite, de savoir prendre les décisions qui s'imposent pour aimer davantage le bon Dieu. Parce que je pense que quand une personne sur Terre nous dit, eh bien voilà, je pense que une personne, par exemple un prêtre qui vous dit, ben je pense qu'il y a peut-être telle chose à changer, bon, si vous êtes une âme de bonne volonté, vous chercherez à le changer. Mais les prêtres même, ils ne vous connaissent pas forcément toujours dans l'intime de votre âme, même si vous vous ouvrez à lui, mais Dieu, lui, ne se trompe pas. Donc il saura encore bien mieux vous dire que n'importe quel prêtre ce qu'il a à vous dire. Donc c'est à vous d'apprendre, et nous notre rôle en fait, ce que j'explique souvent aux séminaristes, nous notre rôle c'est de brancher les séminaristes sur le bon Dieu. Après c'est au bon Dieu de faire le travail. Et donc si on veut se brancher sur le bon Dieu, bien, il faut avoir ce détachement des créatures, bon, d'une certaine manière au départ, il faut ensuite être recueilli, mais ensuite quand Dieu parle, il faut écouter. Il faut apprendre, il ne faut pas zapper en disant « je change de chaîne ». Ça, c'est désagréable. Il faut rester, écouter ce qu'il vous dit et en tenir compte. Et ça vient des exigences de l'amour. Parce que un amour vrai, un amour profond, c'est l'amour qui est entier. Et je vous dis que Dieu veut tout notre cœur. Et donc, tant que tout notre cœur n'est pas à lui, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer les autres, mais on doit les aimer comme le bon Dieu les aime et comme le bon Dieu veut qu'on les aime. Et donc, tant qu'il y a un désordre, eh bien, le bon Dieu ne se donne pas totalement à nous. Dieu se donne à nous en proportion de notre générosité. Et ça, c'est le mystère de la liberté. Dieu nous a donné la liberté, donc si on garde un jardin secret, eh bien, le bon Dieu, il respectera notre liberté. Mais la conséquence, c'est que notre union à lui sera moins forte. Et donc, les grâces qu'on recevra sont moins abondantes, et donc, notre degré de sanctification en pâtira. Notre place au ciel aussi. Et puis ce qu'il faut aussi, quand on veut faire oraison, c'est la force. C'est vrai qu'on a besoin de force pour faire oraison. Parce que il y a des jours où on sera mieux disposé, comme je vous dis, et puis il y aura d'autres jours où, même si on est bien disposé, le bon Dieu pourra se cacher. Ça fait partie des lois de l'amour. Et donc si on n'a pas cette vertu de force, eh bien on se découragera. On se dira, mais l'oraison c'est pas pour moi, c'est bon pour les curés, c'est bon pour les bonnes sœurs. Alors il faut avoir cette vertu. Et comprendre, voyez, qu'on a vraiment besoin, ça si vous arrivez à comprendre, ce serait bien, qu'on a vraiment besoin que le bon Dieu, quand il ne se donne pas à nous tout de suite, il a des raisons pour ne pas se donner à nous. Et il ne nous fait pas souffrir par plaisir pour nous faire souffrir, pas du tout. C'est parce qu'il veut que nous reconnaissions par nous-mêmes que nous sommes rien. On a besoin de reconnaître d'une reconnaissance qui est sensible, presque, palpable, que l'on n'est rien. Et si on a l'habitude de faire oraison, on saura très bien qu'à certains moments, on éprouve notre néant. Il faut accepter de reconnaître son néant. Donc c'est une expérience, le bon Dieu veut qu'on fasse notre propre expérience, l'expérience de notre propre néant. Alors au départ, comme ça arrive très souvent, quand on commence à faire oraison, le bon Dieu nous donne quelques lumières, il nous donne des consolations, et du coup parfois on se croit supérieur aux autres. On dit, ah moi je ne suis pas comme les autres, elles sont ça ne va pas du tout faire raison. Moi, je sais faire raison. On voit bien des rames complètement. Alors, à ce moment-là, le bon Dieu, si vous voulez, c'est normal que le lendemain, on ait plus de mal. Hein. Là, il nous ramène à nous-mêmes. Tu sais faire raison. Vas-y, courage. Donc, le bon Dieu veut que par expérience, on ressente notre néant. Et on a besoin de cela. Et à d'autres moments, le bon Dieu sait aussi qu'on a besoin d'être encouragé, donc il va nous donner des consolations pour nous encourager à continuer. Donc Guy Grand écrivait ceci pour bien montrer, pour bien comprendre ces temps de silence de Dieu. Ici-bas, Dieu ne se refuse jamais, mais se cache souvent. Il aime qu'on le poursuive, qu'on sache l'attendre, lui faire confiance. Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Il arrive qu'une maman conduit son enfant par des chemins que l'enfant ne comprend pas. Et si l'enfant n'arrête pas de trépigner, eh bien la maman, qu'est-ce qu'elle dit? Mais quand même, fais-moi confiance. Eh bien, le bon Dieu, c'est pareil. Il nous conduit par des chemins qui nous paraissent bien obscurs, il faut lui faire confiance. Il aime qu'on le poursuive, qu'on sache l'attendre, lui faire confiance. Demander sans recevoir, recommencer longtemps des efforts qui ne semblent rien obtenir. Il aime la persévérance à la prière. Dieu aime la persévérance à la prière. Alors pourquoi l'amour se fait-il attendre? Pose encore Don Guirand dans son livre Face à Dieu. Pourquoi l'amour se fait-il attendre? Réponse: parce qu'il est l'amour et qu'il veut l'amour. L'amour qui ne sait pas attendre n'est pas amour. Dieu veut savoir si notre amour est véritable, s'il est profond. Alors c'est sûr, c'est à l'antipode, on pourrait dire, de la mentalité moderne. La mentalité moderne, c'est la mentalité fast-food, on aime bien le prédigérer. Bien que le bon Dieu, c'est pas comme ça. Le bon Dieu, lui, il faut du temps. Ce que l'on obtient trop aisément et trop vite n'attire pas les âmes profondes. Elles devinent un bien superficiel, ne pouvant rassasier la riche capacité de leur nature. C'est une loi que les vrais trésors sont enfouis profondément, cachés avec soin, que les acquisitions sérieuses exigent des efforts proportionnés. Dieu est le trésor sans prix. La facilité à se donner détournerait de lui les meilleurs. Donc, tout ça, c'est vrai. Donc le bon Dieu se cache parce que il veut éprouver notre amour. Les retards dans l'union ne sont pas du temps perdu. Il s'en faut de beaucoup. Dieu voit très loin. Il utilise merveilleusement, sans l'aimer d'ailleurs ni le vouloir, ce que nous appelons le mal, les égarements, les arrêts, les détours. Donc dans notre vie, il y a eu des moments où on s'est écarté du bon Dieu, puis après on est revenu. Eh bien, chaque étape est importante dans notre vie. Certes, le bon Dieu ne veut pas le mal, mais il l'a permis. Et nous, on peut en tirer un bien. Sainte Marie-Madeleine ne serait pas arrivée à son degré de sainteté peut-être si elle n'avait pas péché. Malgré tout, il reste toujours préférable de ne pas avoir péché que d'avoir péché. Mais malgré tout, si on sait reconnaître ses erreurs, et si on sait en tirer profit, eh bien, cela peut nous aider à monter plus haut que même si nous n'étions pas tombés. Et souvent, ceux qui sont tombés plus bas sont plus humbles, sont aussi plus reconnaissants, ont plus de reconnaissance. Donc voilà. Ensuite, quant à l'oraison elle-même, alors le sujet de l'oraison, bon, après c'est à vous de voir. Vous devez appliquer votre esprit à une vue de foi. Vous pourrez éventuellement lire, pour arriver à la trame du cœur de l'oraison, la petite plaquette qui se trouve en vente, non pas dans cette salle, mais à côté. Pratique de l'oraison par un chartreux. Mais normalement, dans toute oraison, il y a une vue de foi. Donc, par exemple, je vous prenais tout à l'heure l'exemple du quatrième mystère douloureux que vous méditez. Donc, vous avez une... vous essayez de vous rappeler d'un épisode de la vie de notre Seigneur, de comprendre cet épisode, de comprendre ce qui s'est passé. Et puis, à partir de là, vous émettez ensuite des affections. Et puis après, en conclusion, vous arrivez à des résolutions concrètes, pratiques. À la fin de l'oraison, il est toujours bien de passer en revue sa vie, sa journée qui va commencer, et de, en rapport avec l'oraison, de prendre une résolution. Et aujourd'hui, je sais que je risque de rencontrer telle personne, avec cette personne, j'ai tendance à médire, donc aujourd'hui, ben, j'ai pas de mal le mois prochain. Ou alors, j'ai une tonne de linge aussi à laver, bon, ça me casse un peu les pieds, mais maintenant, pour aujourd'hui, je lave mon linge. Ainsi de suite, ou à repasser, je sais pas quoi. À vous de voir, ou alors j'ai les comptes de la maison qui sont qui n'est pas fait depuis un certain temps, ça me casse les pieds, ben, alors aujourd'hui, je prends cette résolution. Donc c'est bien, à la fin de l'oraison, de prendre une résolution pratique. Dans le but, avec le désir de... par là, de manifester votre attachement à Dieu, en rapport avec votre devoir d'État. Dans l'oraison elle-même, dans les moments plus durs, un conseil pris par saint François de Sales. Bien se dire que l'oraison, si vous êtes convaincu que l'oraison fait plaisir au bon Dieu, et si vous n'êtes pas à l'oraison avant tout pour vous faire plaisir, mais pour faire plaisir à Dieu, rien que le fait de savoir que vous faites plaisir au bon Dieu devrait vous aider à rester en oraison, au moins là, à genoux, le temps que vous avez prévu pour faire cette prière. Et pour le comprendre, saint François de Sales prend une comparaison avec l'histoire d'une statue. Si une statue que le sculpteur aurait nichée dans la galerie de quelque grand prince était douée d'entendement, et qu'elle pût parler, et qu'on lui demandât, « Ô belle statue, dis-moi pourquoi es-tu là dans cette niche ?»« Parce que, répondrait-elle, mon maître m'a placé là. » Et si on lui répliquait, « Mais pourquoi y demeures-tu toujours sans rien faire ?»« Parce que, répondrait-elle, mon maître ne m'y a pas placé pour que je fisse quelque chose, mais seulement afin que j'y fusse immobile. » Que si de rechef on la pressait en disant, « Mais pauvre statue, de quoi te sert-il d'être là de la sorte ?»« Eh bien, répondrait-elle, je ne suis pas ici pour mon intérêt et service, » mais pour obéir et servir à la volonté de mon Seigneur et sculpteur, et cela me suffit. Et si on reprenait en disant, « Or, dis-moi donc, statue, tu ne vois pas ton maître, et comment peux-tu prendre du plaisir à le contenter ?»« Non, certes, confesserait-elle, je ne le vois pas, car j'ai des yeux non pas pour voir, comme j'ai des pieds non pas pour marcher, mais je suis trop contente de savoir que mon cher maître me voit ici, et prend plaisir de m'y voir. » Mais si l'on continuait la dispute avec la statue et qu'on lui dit, « Mais ne voudrais-tu pas avoir du mouvement pour t'approcher de l'ouvrier qui t'a faite, afin de lui faire quelque autre meilleur service ?» Sans doute, elle le nierait et protesterait qu'elle ne voudrait pas faire autre chose, sinon ce que son maître voulut. « Et quoi donc, conclurait-on, tu ne désires rien, sinon d'être une immobile statue, là, dedans cette niche ?»« Non, certes, je ne veux rien d'autre, tant que mon sculpteur le voudra, me contentant d'être ici, et ainsi, puisque c'est le contentement de celui à qui j'appartiens et pour qui je suis ce que je suis. » Donc dans les moments où vous êtes vraiment sèche dans l'oraison, donc pensez que vous êtes là comme la statue qui est là pour le plaisir de son maître. Donc apprenez toujours à être simple avec le bon Dieu. Le bon Dieu est simple, c'est nous qui sommes compliqués, et donc il faut apprendre à être là tout simple avec lui. Donc c'est, vous pouvez très bien aussi, certains jours, c'est sûr, vous avez... vous sentez que ça rien devient, vous êtes vraiment sèche, vous dites, mon Seigneur, aujourd'hui je rame, c'est difficile, ayez pitié de moi, et vous savez que j'ai confiance en vous, je ne suis pas là pour mon plaisir mais pour le vôtre. Et voilà. Et ça c'est important, cette oraison dont je vous parle, parce que c'est ce qui va intérioriser votre âme. Pensez que si vous ne voyez pas le bénéfice de l'oraison quand vous en faites, pour celles d'entre vous qui font oraison, on se rend toujours compte, hélas, des bienfaits de l'oraison A contrario, lorsqu'on arrête d'en faire, dès lors qu'on arrête de faire oraison, on est plus superficiel, on est moins fort contre les tentations, on est plus distrait, on cherche plus de consolation sensible, on est moins fidèle dans son devoir, ça c'est sûr. Et donc c'est la preuve, si vous voulez, que quand on fait oraison, l'oraison nous bonifie, même si on ne voit pas les résultats immédiats. Maintenant, quels sont les fruits d'une oraison? Comment savoir si l'oraison est bonne? Parce qu'il y a une partie un peu mystérieuse dans l'oraison. Alors, quels sont les signes qui montrent que notre oraison est bonne? Le père Liberman donne quelques signes. La paix et la joie. Le détachement des créatures et de soi-même. Il dit ensuite la pratique des vertus les plus parfaites et les plus sublimes. Bon, on n'est peut-être pas encore là. Donc la paix et la joie, le détachement des créatures et de soi-même, la pratique des vertus, les lumières que nous recevons sur Dieu et sur nous-mêmes, la réforme de nos défauts de caractère. Après, il donne encore un dernier signe, le perfectionnement même de nos facultés naturelles. C'est-à-dire que l'oraison nous soumet davantage au bon Dieu, et donc le fait que le bon Dieu prenne davantage possession de notre âme ennoblit nos facultés naturelles, enfin nous rend notre volonté plus forte, notre sensibilité donc, plus canalisée, arrive à davantage à se soumettre à la partie supérieure, notre intelligence est plus profonde. Et donc il disait d'ailleurs, le perfectionnement même de nos facultés naturelles, au point que notre amour-propre lui-même serait intéressé, c'est pas forcément le motif le plus noble, hein, au point que notre amour-propre lui-même serait intéressé à ce que nous fassions oraison en voyant la transformation qu'elle produit déjà au plan naturel. Et alors cet amour affectif qui sera produit dans l'oraison devra ensuite se traduire en amour effectif, donc dans la vie de tous les jours. Et c'est cet amour effectif qui va ensuite faciliter l'amour affectif dans l'oraison le lendemain. Il est évident que si on a deux parties dans notre vie, une partie spirituelle et une partie mondaine, eh bien la partie mondaine, eh bien elle est aux antipodes de la partie spirituelle. Et donc si on a une vie qui est mondaine, eh bien cette vie-là, étant en opposition, ça ne va pas faciliter la vie spirituelle du lendemain, ça c'est évident. Donc on verra que le bon Dieu, il est exigeant encore une fois, il veut tout. Et il veut la totalité de notre cœur, parce qu'on est fait pour lui, tout simplement. Et parce que c'est la source du vrai bonheur. La mondanité n'est pas source de bonheur. Elle est source de vanité, source d'orgueil, source de... mais elle n'est pas source de joie et de paix intérieure. Donc, et ça c'est l'intérêt d'une retraite, c'est que dans une retraite, en prenant du recul par rapport à nos activités, eh bien, on voit qu'est-ce qu'on a tendance à donner au monde et qui peut être un obstacle à notre union intérieure. Oui. Donc il faut essayer d'avoir une cohérence dans notre vie. Entre l'union, il faut avoir une union, arriver à faire l'unité entre la prière et puis tout le reste de notre vie, de la vie de tous les jours. Et si on arrive à cela, on sera vraiment de vrais catholiques comme on doit l'être. Et c'est une évidence qu'à partir de ce moment-là, eh bien, les gens de notre entourage, qui n'ont pas forcément la même conception de la vie, eh bien, on paraîtra vraiment comme étant des gens vraiment d'une autre planète, quoi. C'est comme ça, hein. Donc il ne faut pas être surpris d'avoir des réflexions négatives des gens qui n'ont pas de vie intérieure. Parce que nous, notre cœur est en Dieu, et eux, leur cœur est dans le monde. Alors Dieu et le monde, ça ne va pas ensemble. Voilà, donc courage. On va aller terminer par une petite prière à la chapelle.